les éco-ateliers. Des rencontres inspirantes avec les acteurs de la transition écologique et solidaire. Proposé par Audrey. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour cette dernière table ronde qui a été enregistrée dans le cadre du Festival du Territoire Durable. Pour cette dernière soirée, la thématique était résilience agricole et biodiversité.
On s'est posé un petit peu pour préparer cette table ronde et on s'est dit, c'est bien de parler de résilience, mais est-ce que ce serait pas mal de commencer par un fondamental, de parler de redéfinir qu'est-ce qu'est la résilience?
La base de la résilience est un terme de physique, détermine la capacité à un métal de résister à un choc. C'est un rapport à comment résister à un traumatisme. Là, on va dire pour l'agriculture, ça va être ça. Là, on va pouvoir parler de sécheresse, des chaleurs, quelque part la perte de la biodiversité. Joue aussi un rôle dans la résilience et quelque part, même dans la réflexion, moi je me suis dit que... À la base, s'il y a bien un système qui est résilient, c'est la nature. Et aujourd'hui, on en est à se poser la question de la résilience pour l'agriculture. C'est principalement pour moi dû à des choix d'agriculture qui ont été faits les 70 dernières années et qui nous amènent aujourd'hui à se poser des questions sur comment arriver à continuer à faire de l'agriculture sans tout détruire et pouvoir continuer encore pour très longtemps.
À propos de la résilience en agriculture, c'est un petit peu la même chose qu'on peut tous faire chez soi. Et moi, il y a une règle que j'aime beaucoup, c'est la règle des 5 R. Eh bien, refuser, nous, par exemple, sur la ferme, on avait un super produit, un BT, qui tuait que les larves d'oryphore. Il n'existe plus. La société japonaise qui le faisait a arrêté de le produire, pour une histoire de droit, enfin, un truc complètement débile. Et là, maintenant, on a un nouveau produit, c'est spinosade. Eh bien, le spinosade, il tue tous les insectes. Alors, ils sont contents parce que la petite boîte, elle coûte 300 euros, alors qu'avant, ce qu'on achetait, ça coûtait une trentaine d'euros, et on était tranquille avec ça. Donc ça, on a refusé de l'utiliser. Ce qu'a fait, on passe dans les cultures, on ramasse à la main. Donc c'est un temps fou quand même. Hein. On ne récupère pas tout, donc on perd quand même beaucoup de choses. Donc ça, c'est le premier R, refuser. Après, on peut refuser aussi certains produits, comme le cuivre métal. Maintenant, il y a une sorte de cuivre, enfin, elle existe depuis super longtemps, c'est le gluconate de cuivre, qui est beaucoup essayé en Suisse et au Canada. Et nous, on fait des essais sur la ferme, on a vu que sur l'oignon, ça marche bien. Pommes de terre, c'est un peu moins bien, mais on accepte d'avoir des baisses de rendement, d'avoir moins de pommes de terre pour préserver un peu l'avenir. Ce qui va être important dans tout ça, c'est que c'est vrai que ça a l'air tout un peu pessimiste, mais il y a de telles marges de manœuvre, c'est fou quoi. Il faudrait juste une volonté politique, économique et médiatique pour accélérer ce mouvement qui est là partout. Donc refuser. Après, en tant que citoyen, ça peut être refuser un produit qui vient de trop loin. Un produit qui n'est pas éthique. Après, réduire. En 2017, 25% de la production agricole française était jetée. L'agriculteur qui va faire un petit peu plus pour être sûr de ne pas manquer, le reste sera jeté. Du transformateur qui va se tromper, qui va faire des bêtises. Le supermarché, la date est un peu trop proche, il va jeter. Jusqu'au consommateur final, nous aussi, on fait un peu de gâchis. Et bien un an plus tard, en 2018, c'était 33%, un tiers. Un tiers de la production alimentaire. La marge que ça fait de repas en plus, quoi. Ensuite, toujours d'en réduire. Alors nous, ce qu'on fait sur la ferme, bon, déjà, on essaie de rien jeter. Souvent, on manque à la ferme. Et si il en reste un peu plus, ça va être donné, offert. Après, on va essayer de réduire aussi sur la consommation de carburant. Quand on doit pulvériser certains produits, eh bien, moi, j'ai un atomiseur. Suivant le régime moteur, on va passer d'une consommation de 3 à 1. Juste fait l'essai. Alors, c'est un petit peu plus long. Ça envoie moins bien, mais on économise beaucoup de carburant. Le tracteur, c'est pareil, on l'utilise au minimum, vraiment pour le travail du sol. Après, le reste, ça va être la carriole. Tout est fait avec les bras. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment un grand effort médiatique pour nous faire prendre conscience un peu de tout ce qui se passe, de l'urgence à réagir. Et pourtant, nous tous, on a changé face à notre consommation de viande. Les médias ont été obligés de créer un mot pour ça. Ça s'appelle le flexitarisme. Parmi nous, il y a plein de flexitariens. Des gens qui n'ont pas arrêté leur consommation de viande, mais qui l'ont diminué, fortement, plus ou moins réduite. Et aussi qui ont changé leur rapport. Ils ne vont plus acheter n'importe quelle viande, mais essayer de trouver un producteur, quelqu'un qui n'est pas loin, quelque chose qui est de l'élevage extensif. Enfin, les gens sont de plus en plus conscients. Donc je crois que c'était quand même un ménage sur quatre en France, et encore il y a quelques années. Donc ça, c'est pour réduire. Après, réutiliser, récupérer. Bon, là, pareil, la marge, elle est... Tout ce qu'on jette, c'est fou. Sur la ferme, toutes nos serres sont d'occasion. Quasiment tout le matériel est d'occasion. On n'a rien acheté de neuf. C'est long. C'est beaucoup plus long. Quelque chose de neuf, c'est très facile à installer. Quelque chose qui est vieux, ça prend du temps. Récupérer des vieux filets anti-insectes, il faut les dérouler, il faut les réparer. On n'imagine pas le temps que ça prend en plus. Ça nous rend heureux. On est vraiment heureux de faire quelque chose de juste. Et composter, alors là aussi, la marge, elle est folle. Un tiers de nos déchets, nos poubelles, en France, un tiers, 33%, c'est des déchets organiques. À Lille, enfin Lille, la CUDL de Lille, 1 200 000 personnes, là-bas, ils récupèrent tout et ils brûlent. Il faut de l'énergie avec. Il faut une pub monstre. Sauf que cette énergie, c'est 0,5% de l'énergie qui est utilisée dans toute la CUDL. C'est rien du tout. Ces poubelles, quand elles arrivent dans ces usines pour être brûlées et faire de l'énergie, il y a trop de matière organique. C'est trop humide, ça ne brûle pas. Donc on va aller chercher du plastique. Donc nous, par exemple, nos vieux plastiques, qui sont trop sales, qu'on ne peut pas recycler, ils en font des balles, et ça fait des balles de combustion, et grâce à ça, ça va brûler. Quand il n'y en a plus assez, eh ben on va aller chercher dans le tri recyclable. Donc composter, pour ça c'est tellement important de ne plus rien jeter d'organique à la poubelle. Ce tiers de matière organique qu'on jette dans nos déchets, en France, chaque année, ça représente en azote 2 fois la quantité d'ammonitrate qui est pendue en France. D'engrais chimiques de synthèse. Ammonitrate NH4. N, bon, c'est de l'azote, c'est de l'air, c'est facile. H, d'hydrogène, il vient du gaz. En France, la grande majorité, il est fait en Russie avec du gaz russe. Mais enfin, c'est du gaz. Alors qu'on jette 2 fois la quantité dans nos poubelles. En 1900, en France, toutes les épluchures, tous les déchets organiques de tous les restaurants étaient récupérés pour être jetés à la campagne pour refaire à manger. Il y a juste 120 ans. Ça fait même pas 2 vies humaines. Enfin, mais cette société du confort, ces 30 glorieuses, ce qu'elles ont amené, cette chute de la biodiversité, cette pollution, c'est incommensurable.
Quand on parle de résilience et qu'on dit que bah, là, avec le contexte géopolitique, il y a un problème sur les engrais, et bah, pour moi, de faire une aide pour qu'on puisse continuer à acheter des engrais, c'est ne pas comprendre le problème qui va se passer. C'est que si on manque d'engrais, il bah, faut trouver une autre solution. Et là, j'y sais en parler avec le compostage, mais y a des solutions qui existent depuis très longtemps. Il y a le fumier, il y a les lisiers, il y a les engrais verts, il y a la matière organique à apporter au sol. Enfin, il y a toutes ces méthodes-là qui existent, mais qu'on ne va pas retrouver dans les directives choisies par l'État. Donc, dans le reportage avant, ils en parlent bien en disant que les décisions politiques vont jouer un grand rôle.
Et c'est d'ailleurs qu'avec des décisions politiques que je
bah, normalement, oui, ça va être avec des décisions politiques que les
citoyennes.
Choses vont changer.
Oui, bah... Parce que le plan de résilience, on l'a. Hein. La Convention citoyenne pour le climat qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas si vous l'avez lu, regardez-la dans le détail, vous allez voir, c'est impressionnant ce travail que nous avons réalisé. C'est des citoyens qui ont été tirés parmi nous au sort, qui ont été formés, qui ont créé mais 150 règles. J'ai appris des choses incroyables. Enfin, ils ont été, mais ils ont tout vu. Tout vu. Le social, l'agriculture, l'énergie, la finance, tout. T'y es passé. Il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien qui est pas. Enfin, après, effectivement, rien n'est passé.
Faites remettre du bon sens mais dans toutes nos pratiques, ce serait quand même plutôt chouette de se dire qu'on n'est même pas autonome sur l'alimentation de nos animaux d'élevage. Que l'alimentation vient d'Ukraine ou
d'Amérique du Sud.
C'est assez incroyable. Quoi.
Oui, ou qu'on soit en pénurie de moutarde de Dijon alors que bah, c'est dans le nom de moutarde de Dijon.
Voilà. Bah, et la exemple, moutarde vient du Canada. Mais... Au final, la résilience, c'est pas juste. Donc, on va parler des techniques culturelles et de la biodiversité, bien sûr. Mais on s'est dit que la résilience, c'est dans son ensemble, c'est dans la ferme. Où on travaille, bah de les prendre dans tous les sens du terme. Quoi.
Il y a pour moi plusieurs angles d'attaque sur qu'est-ce qu'on peut appeler la résilience, parce qu'on a parlé de l'effondrement de la biodiversité. On va dire qu'après une saison comme cette année, il y a aussi un gros problème de la gestion de l'eau et des chaleurs, enfin, qui, en tout cas, nous a posé quand même beaucoup de problèmes cette année alors qu'on travaille sur sol vivant avec beaucoup de paillage en goutte à goutte. Mais là, c'est la chaleur qui a posé d'autres problèmes parce que au-delà de 35 degrés, où là, quand on était à 38 degrés à l'ombre, par exemple, pour les fleurs des tomates, ça les fait faner et elles tombent. Et du coup, on a eu quelque chose, enfin, grosso merdo, j'ai pas un chiffre exact, mais comme ça de visu, pour moi, on a plus de 75% de perte sur la tomate cette année. Donc, et c'est pas que dû à l'eau, ou alors ce que nous avait préconisé la Chambre d'agriculture, ça a été de faire des bassinages en plein soin, donc c'est-à-dire faire un arrosage par aspersion et l'évaporation de l'eau aller rafraîchir un peu les cultures. Alors, on le fait sous serre. Mais en plein champ, pour moi, c'est enfin, surtout dans une année où, sous le milieu de la sécheresse, on est en pleine sécheresse. Je trouve que c'est aussi une aberration de parler de cette solution-là.
Donc, si ça, c'est la solution qu'on nous propose pour arriver à cultiver en plein champ, est-ce que c'est de la résilience? Parce que les nappes phréatiques sont en train de se vider petit à petit.
Et c'est vrai que moi, là, du coup, c'est un sujet que moi, je voulais te parler. C'est que nous, on a fait le choix, depuis le début, de travailler en semences paysannes et de faire une partie de nos propres semences. Justement dans cette optique-là, de les habituer d'une à nos techniques culturales et de deux, les habituer à pas beaucoup d'eau. Parce qu'après nous, dans notre lieu où on est, on a cette capacité. Plus on récupère de l'eau de pluie avec la serre et bientôt avec la maison. Mais notre capacité en eau est très réduite. Donc notre objectif principal était déjà aussi d'entrée de jeu, d'arriver à faire des semences et des variétés de légumes qui résistent à ça. Sauf qu'il faut savoir que ça prend 10 ans à stabiliser une variété quand on fait ses semences. Donc c'est un travail de très longue haleine et qui enfin, pour moi, rentre dans l'idée de la résilience parce que il faut que le vivant s'adapte. Et comme je le disais au début, la nature, elle a cette capacité-là à s'adapter. Après, c'est l'échelle de temps à laquelle elle doit... ça prend pour s'adapter, c'est 10 ans. Donc si on a des trop gros changements climatiques, des sécheresses de plus en plus fortes et des températures de plus en plus hautes, c'est là où la question va se poser de est-ce que le vivant va arriver à s'adapter à cette vitesse-là. Donc ça, pour nous, ça, c'est une des pistes que moi je trouve importante à mettre en avant. Après, je sais que l'une des principales critiques qu'on peut faire à la semence paysanne, c'est le rendement. Effectivement, c'est pas au début qu'on va avoir les meilleurs rendements. Après, c'est à mettre des fois entre guillemets, parce que on s'est rendu compte cette année que là, sur la fin de saison, on avait beaucoup plus de demandes sur des tomates parce qu'on avait encore des tomates après fin août. Alors que on nous a dit qu'à Tournon, les îles Ferrées, on n'avait plus et avait plus d'aubergines. Donc je peux pas. Après voilà, nous ça fait que 4 ans qu'on a installé, donc je ne peux pas certifier que ça y joue, mais ça peut y jouer aussi. Que la résilience des plantes qui d'une année sur l'autre vont avoir du mal, mais vont quand même arriver à faire des graines, récupérer ces graines-là va nous permettre d'avoir des plants un peu plus résilients l'année d'après à des conditions un peu plus extrêmes.
Et adaptés au biotope. Par exemple, nous, sur notre sol est plutôt un sol assez acide, et donc de faire sa génétique permet d'avoir des variétés qui sont plus adaptées que si on achetait des plantes qui viennent d'une autre zone de France, par exemple, aussi.
Et pareil, tout à l'heure on en parlait vite fait par rapport aux salades, mais pareil, quand on fait notre choix de semences chez le semencier avec lequel on travaille, j'en parlais tout à l'heure, on a choisi une variété qui s'appelle la merveille de Verano, donc variété italienne qui est habituée déjà plus à des chaleurs un peu plus fortes qu'ici, et aussi un manque d'eau aussi depuis un peu plus longtemps. Et on va pas dire que c'était une super réussite, mais on a quand même réussi à avoir des salades petites, mais qui sont pas montées à graines de suite. Elles ont tenu un mois et demi avant de commencer à monter à graines. Donc c'est aussi une autre solution, c'est d'adapter ces cultures aussi, hein, parce que le réchauffement climatique est aussi une des raisons sur lesquelles il va falloir penser un peu plus à des cultures du sud et à des techniques culturales du sud. Pareil, nous là on a commencé à faire des structures pour faire des ombrières. Et dans l'idée cette année ça n'a pas marché parce que la première canicule au mois de mai, il n'y avait pas grand chose qui avait encore pu pousser sur les structures. Mais après, les quelques choux qu'on a pu mettre et on a pu sauver avec l'eau, ils sont assez bien, ils se sont assez bien sortis du mois de juillet jusqu'à maintenant parce qu'ils étaient à l'ombre des haricots grimpants, par exemple.
Ou ça peut être dans la serre pour faire abaisser les températures, donc de mettre soit des voiles thermiques et complémenter soit... avec une plantation de vignes, des kiwanos, enfin, il y a des possibilités qui peuvent être mises en place. Il faut réfléchir en permanence. Le métier d'agriculteur, c'est un...
Et puis à chaque fois, en plus, ça pour moi, à chaque fois, c'est de faire de l'ombre comme ça avec des plantes, ça va... Le seul avantage n'est pas que l'ombre, mais aussi, ça va faire un peu plus de biodiversité, ça va apporter un peu plus de matière organique aussi au sol quand ces cultures-là vont mourir. Donc il y a à chaque fois plusieurs angles d'attaque et plusieurs bienfaits ou côté... Enfin, après... À savoir que le mot d'ordre en général en agriculture, c'est compromis hein, quand même. Donc, c'est toujours essayer de trouver quel est le compromis qui fait que c'est acceptable pour nous et acceptable pour ce qu'on veut faire.
Non, c'est vrai que moi j'avais un angle d'attaque un peu différent, je pense, sur le sujet de la soirée, mais oui, qui est important justement, qu'on n'a pas encore évoqué. Et donc, le sujet c'était le sujet principal de la soirée, c'est résilience agricole et biodiversité. Et c'est vrai que moi déjà je trouvais compliqué de lier les deux finalement parce que effectivement la biodiversité on en a besoin et je trouve que la vidéo qu'on a vue est très bien parce que quand on s'est installé il y a 5 ans maintenant on était totalement là-dessus quoi. On a planté des haies, on voulait des insectes, on avait creusé une mare, on s'est dit que ça allait nous aider quoi. Et puis on se rend compte quand même que tout ça c'est des mine de rien pour une entreprise agricole, c'est des investissements. Et est-ce que avec les changements qu'on a chaque année, enfin après une année comme on a eu cette année par exemple, on se dit est-ce qu'on est prêt à faire tous ces investissements? Est-ce qu'il y a un retour dessus? Et il y a un terme pour moi qui a été oublié là, dans la vidéo, c'est qu'en fait la résilience agricole elle passe avant tout par les paysans. S'il n'y a pas de paysans, il n'y a pas de résilience agricole. Et les paysans, il y en a jusqu'à quand? Parce qu'après des années comme on a depuis, moi ça fait que 5 ans. Hein, on tient encore, mais on se demande si combien de temps ça va durer, parce qu'en fait c'est compliqué, c'est dur chaque année. Je pense qu'on peut tous en témoigner.
Et trop,
ouais, voilà. Et donc déjà on voit la nature, les forêts qui ont du mal à s'adapter. On sait qu'on n'aura pas les mêmes espèces qui vont réussir à s'adapter sur des forêts. Enfin, je veux dire. Si les forêts ne résistent pas, nous, comment on va faire? Donc ouais, c'était un peu le sujet que je trouvais qui manquait. Après, la vidéo le dit, il faudrait des leviers un peu plus importants. Mais c'est vrai que j'ai pas de plan, alors c'est un peu compliqué.
Non, mais tu parlais aussi que pour le coup, la résilience humaine, préserver son dos, et vous avez fait, vous, sur votre ferme, le compromis de faire aussi des paillages avec grande toile tissée. Ah, qui sûr, est pour le coup plus résilient qu'une bâche plastique parce que c'est plus durable. Mais à un moment donné, il faut aussi faire des choix. Et c'est vrai qu'on passe des semaines, voire peut-être en mois, deux mois, à faire des à pailler en paillage végétal. Et c'est un combat. Et c'est super chouette ce qu'on fait. Mais il faut aussi se préserver et tenir sur la durée. Quoi. Donc,
c'est pas toujours. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un moment, c'est pas toujours au paysan de faire. De prendre sur lui, de se dire faire les compromis pour réussir à avoir une petite production. À un moment, il faudra aussi que la société accompagne, mais pas que les paysans, c'est dans tous les domaines. Là, c'est le système de société.
De toute façon, avec le coût de l'énergie, avec le manque d'énergie qui va arriver, il y aura besoin de plus en plus de bras. Les fermes, ça deviendra des systèmes solidaires, quoi.
Non, mais t'es optimiste, c'est bien.
Je vais rebondir sur ce qu'ils disent, que c'est vrai que nous, quand on a fait notre BPRA il y a 4 ans, on nous a beaucoup parlé des maraîchers de la ceinture parisienne avant la Première Guerre mondiale. Et à savoir que déjà, ils avaient du fumier à volonté, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore vraiment des voitures, c'était beaucoup de calèches, et du coup, ils récupéraient tout le fumier de cheval. Et à l'époque, pour le maraîchage, c'était 40 personnes par hectare. Aujourd'hui, c'est une personne par hectare. Donc, effectivement, la résilience dans les techniques culturelles est une chose. Et après, c'est est-ce que l'humain suit aussi. Parce que c'est vrai que contrairement à JC et François, nous c'est vrai qu'on travaille pour l'instant qu'en paillage soit paille, soit broyade de déchets verts, mais ça nous fait trois fois plus de travail qu'eux parce que on doit y mettre trois fois plus de passages, et puis il faut trouver les matières premières, il faut aller les chercher. Mais à chaque fois, en fait, c'est. Là, en fait, on parle en même temps de la même chose. C'est dans les techniques culturales, c'est plusieurs méthodes de travail sur sol vivant, en fait. Donc, c'est à chaque fois, comme on dit, un compromis. Est-ce qu'on y met du plastique? Est-ce qu'on ne met pas de plastique? Est-ce qu'on y passe plus de temps? Est-ce qu'on est équipé pour? Après, nous, les choix qu'on a faits ne sont pas que idéologiques. On a un terrain qui est très en pente où on a fait des terrasses avec beaucoup d'arbres et du coup très difficilement mécanisables. Donc, quelque part, même en fait, ces options-là pour nous étaient même compliquées à envisager parce que trop difficile de ramener. De la toile tissée ou des bâches plastiques pour les dérouler, ça aurait été aussi beaucoup de temps dans tous les cas, quoi. Donc c'est toujours des compromis qui peuvent améliorer certains points et qui peuvent poser d'autres problèmes.
Remettre juste du bon sens dans tout ce qu'on fait dans notre pratique au quotidien, ça sera déjà une bonne part.
C'est pas refuser le progrès ni la modernité, bien au contraire, mais c'est de la rendre vertueuse, juste, durable. Et ça, c'est largement possible, quoi. La résilience, c'est aussi nous tous. Chaque euro qu'on va dépenser, on peut le dépenser dans ce qu'on veut voir demain pour nos enfants. Toutes ces entreprises, toutes ces fermes, il y a tellement de choses maintenant qui respectent l'avenir, qui essaient d'aller dans le bon sens. Et bien, c'est à nous de les aider, à nous de les soutenir.
Mais il y a encore tellement de choses à dire sur la résilience, on en aura sans doute oublié. Mais il y a aussi travailler, vendre en circuit court, ultra court, soit en vente à la ferme, monter des magasins de producteurs, par exemple sur des territoires en dynamique. Ça peut être livrer, faire quand on fait sa tournée de livraison, livrer et organiser sa tournée vraiment avec plusieurs lieux livrés en même temps. Ça va être aussi vraiment être dans une dynamique locale. Après, pour ça, il faut que le consommateur soit réceptif et qu'il nous accompagne et qu'il continue de nous suivre.
Avant de passer aux questions, on va peut-être laisser la place à Sophie, non, pour parler de biodiversité à l'échelle de l'agglo.
Donc nous, concrètement, on a un pôle environnement, on a quatre grands volets, on a un service rivière, on a une personne au plan climat, agriculture, environnement. Moi, je suis aux espaces naturels. Donc, pour vous dire concrètement des actions qu'on mène, Service Rivière, par exemple, ça va dans la thématique, ils sont en train de mener un marathon de la biodiversité. Donc là, l'objectif, c'est de planter 20 km de haies et de creuser 20 mares sur 3 ans. Donc, ils travaillent avec les agriculteurs, ils prennent en charge les plants, ou ils aident pour planter. Après, l'agriculteur doit continuer d'entretenir les plants de la haie. Et ils creusent des mares, donc il y a une prise en charge financière et une aide technique. Et pour l'instant, c'est plus sur la Drôme, parce que en regardant notre territoire d'Archaglo ou l'Ardèche, c'est quand même beaucoup plus bocagère. En Drôme, des collines, c'est des grandes cultures, et les haies et les mares, il y en a beaucoup moins que côté Ardèche. Donc c'est vrai que pour l'instant, les agriculteurs, c'est plus côté Drôme. Au niveau de l'agriculture, outre les aides à l'installation, elle travaille aussi sur le plan alimentaire territorial. Donc là, il y a un gros projet qui est en train d'être fait avec les cantines, etc., les circuits courts. Et il y a aussi des actions, c'est en train d'arriver, PAEC, pardon, dans l'Ardèche, et les mesures agri-environnementales. Jusque-là, on n'y avait pas droit parce qu'on n'avait pas de site classé Natura 2000. Et maintenant qu'on a un ENS côté Ardèche, donc c'est de Boussieu-le-Roi à Tournon, dont Plat fait partie, Colombier Jeune, Saint-Victor, il y aura la possibilité d'avoir des aides européennes. Alors ça, c'est des gros dispositifs, donc il faut voir aussi si l'agri s'y retrouve à la fin, donc ça dépend, il y a différentes mesures. Mais sur des zones humides, des prairies, il y a quelque chose qui est en train d'être mis en place avec des aides État-Europe sur des mesures agri-environnementales, donc un certain nombre de pratiques qui sont en concordance avec la biodiversité et des aides financières aux agriculteurs. Donc il y aura un accompagnement avec la Chambre d'agriculture. Et moi, je travaille plus sur les espaces naturels. Je suis plus sur la biodiversité, donc je travaille avec les conservatoires botaniques, les associations naturalistes, donc LPO, FRAFNA, France Nature Environnement. Et on travaille sur des suivis faune-flore sur des sites classés, donc j'ai une dizaine de sites en gestion. Tous n'ont pas des profils agricoles, j'ai des pelouses sèches par exemple, j'ai des zones humides, où il n'y a pas trop d'agriculture, mais j'ai quand même une partie des coteaux aussi de l'Ermitage, donc il y a un enjeu viticole assez important en termes de paysage aussi, parce qu'on a quand même du défrichement aussi, de la replantation de vignes. Donc là, c'est comment accompagner les agriculteurs et les viticulteurs sur des infrastructures agroécologiques sur leurs parcelles. Donc on travaille sur ça. Et sur l'ENS 3D, donc d'où du Zon d'Aronne. Nous, on travaille sur les prairies humides, pas mal, parce qu'il y a pas mal d'espèces d'orchidées, etc., qui sont sur ces prairies. Et il y a une bonne préservation. Et l'idée sur cet ENS, où il y a eu quand même une fermeture du milieu, c'est d'essayer de maintenir les milieux ouverts. Donc les milieux agricoles sont super importants sur cet ENS 3D. On a déjà fait des diagnostics biodiversité agriculture avec 3 agriculteurs volontaires sur l'ENS, avec la chambre d'agriculture aussi. Et on avait un accompagnement du conservatoire botanique. Ils sont allés sur le terrain pour repérer quelles étaient les espèces, quels étaient les auxiliaires et comment on peut travailler à la biodiversité à l'échelle de la parcelle. Donc il y avait une double vision à l'échelle de la parcelle et à l'échelle de l'exploitation pour maintenir la biodiversité sur ces milieux ouverts qui sont super importants pour la biodiversité de l'ENS. Et en dernier, on a une action qui est transversale, c'est la sensibilisation scolaire. Donc on a une grosse campagne PEDA, on avait 150 classes là avec qui on travaille. Donc il y a différents lots. Moi c'est la LPO qui anime des animations de biodiversité. Je sais qu'il y a des visites à la ferme aussi, avec le CIVAM, tout ça, etc. Donc il y a pas mal d'actions à l'agriculture qui sont faites sur des sorties scolaires. C'est 3 demi-journées. Il y a une ou 2 demi-journées à la ferme et une partie en classe. Et c'est sur l'année scolaire avec des rendus. Et l'année prochaine, il y aura la fête de l'environnement, normalement, où on va faire le rendu des 150 classes sur les différentes thématiques. Donc rivière, il y a l'eau, il y a l'enjeu inondation, il y a l'enjeu biodiversité aquatique. Moi, c'est plutôt sur la faune, la flore, la géologie.
Et qualité de l'eau, non?
Ouais, qualité de l'eau aussi.
C'est quand même une question qui est primordiale.
Service rivière, voilà. Alors c'est sûr que j'ai parlé que du marathon de la biodiversité, c'était le pendant agricole. Après, ils sont bien sûr sur les volets quantité, qualité. Et sur le Doubs, il y a bien sûr donc, des collègues mais qui ne sont pas sur Archaglo, le syndicat de bassin versant du Doubs, qui alors qui sont travaillent sur le plan de gestion de la ressource en eau. Je ne sais pas si Renaud Dumas, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais il fait du gros travail avec les agriculteurs aussi. Il y a la thématique qui n'est pas évidente aussi, des retenues collinaires. Il y en a plus de 900, je crois, sur le bassin versant du Doubs. Enfin, bon, ça, on ne manque pas de travail sur les aspects environnement, donc c'est un peu un panel, toutes les actions qu'on mène, nous, sur le terrain, avec des agriculteurs ou d'autres acteurs autour de l'eau, de la biodiversité, des écoles.
C'était les Éco-Ateliers, proposés par Audrey.